Et nous en sommes, Éminence, Monseigneur, à la face B de la première cassette. Et quelques mots pour conclure la première partie. Pour pouvoir entendre et comprendre un vin nouveau du Seigneur, il faut absolument avoir une autre œuvre, car l'esprit et le vocabulaire est bien différent. Une vieille outre, du style 1, ne peut recevoir qu'une quantité limitée et occasionnelle de vin nouveau. Sinon, la personne éprouvera toutes sortes de malaises d'outre, de brûlements ou d'ulcères d'outre, voire même de crises aiguës et d'éclatements d'outre, et ce qui est très douloureux. L'avantage de l'enregistrement sur cassette de ces vins nouveaux, c'est que lorsque j'en ai personnellement le signal du Seigneur, je peux tout dire séance tenante, car la cassette, elle, capte et retient tout. Mais je laisse à la responsabilité personnelle des auditeurs et des auditrices de doser l'écoute et la progression de la cassette. Passons, si vous le voulez bien maintenant, à la deuxième partie de l'interpellation, qui concerne les archevêques et évêques. Et en passant au chapitre 1 sur les styles 1 et 2. Dans une lettre ouverte et fraternelle adressée à tout l'Épiscopat du Canada, le 15 août 1984, annonçant le lancement de la mission « Église évangélise-toi toi-même encore davantage », je vous disais en pages 3 et 4, et je cite, d'abord, brièvement, la mauvaise nouvelle. Malgré de nombreuses et belles réformes post-conciliaires, nous avons malheureusement conservé en Église, de façon assez généralisée, une manière de penser, de parler et de nous comporter qui non seulement n'est pas renouvelée au gré du Seigneur ou des fidèles, mais, je le crois, est dépassée et doit céder la place. Le peuple de Dieu demeure encore beaucoup trop sur sa légitime faim et soif du Seigneur des Seigneurs. Pour que l'Église, profondément transformée sur le plan spirituel, puisse apparaître pour de bon, celle-là même qui a été prophétisée par Jean 23 et que tous attendent, une option fondamentale, radicale, nouvelle s'impose, à tout prix et sans délai, et seule une réponse généreuse à sa grâce de conversion nous y conduira. Et, ensuite et surtout, la très bonne nouvelle. Il existe par ailleurs un second mode possible de vie et de fonctionnement en Église, tout autre que celui qui prévaut de façon générale à l'heure actuelle. Nous avons eu, Dieu soit loué, la grâce de notre vie d'en faire la découverte et surtout l'expérience à fond depuis 9 ans. C'était en 1984. Ce style d'Église est fantastique. Il est infiniment supérieur à celui que l'on connaît actuellement. Il est nettement plus efficace et sanctifiant, et beaucoup plus conforme d'ailleurs, non seulement au vrai sens et aux origines de l'Église, mais également au désir actuel et pressant du Seigneur. Il faudrait en effet être aveugle, sourd ou impotent spirituellement pour ne pas réaliser que le Seigneur, déçu de nous, tend sa main comme jamais auparavant et veut restaurer son Église. Fin de la citation. Je n'ai évidemment pas l'intention ni le temps de vous donner ici un enseignement sur le style de nouveau en Église. Celui qui va, que nous le voulions ou non, éclater sous nos yeux et parmi nous au cours de cette décennie. Il existe déjà 2 séries de cassettes à ce sujet, une intitulée « Un nouveau style légitime et indispensable s'impose en Église », PH 2, 28 et 29, et « Comment passer du style 1 au style 2 en Église », également 2 cassettes, PH2, 28b et 29b. Disons que le style 2 est celui de la course à la vie et non celui de la vie à la course, de l'essor continu et non de l'effort continu. Le style 2 est à coup de grâce surtout et pas seulement à bout de bras surtout. Il est axé sur une vraie pastorale de relance et non pas seulement une pastorale de maintenance, comme c'est souvent le cas dans notre style actuel. Dans le style 2, ce sont nos petits efforts auxquels le Seigneur donne ses grands résultats spirituels à lui. Alors que dans le style 1, on le sait, ce sont souvent nos grands efforts qui ne donnent en fin de compte que de petits résultats. Le style 2 est celui où l'on fait à sa tête avec un S majuscule plutôt qu'à la nôtre, où il prend nos vies, nos agendas en main et non l'inverse où nous prenons le Seigneur en main. Dans le style 2, c'est lui surtout qui s'active en nous, à travers nous, plutôt que nous, nous nous activions désespérément pour lui. Dans le style 2, c'est une vie remplie, comblée, alors que dans le style 1, c'est souvent une vie occupée, débordante. Et finalement, disons que dans le style 2, c'est le RCA, récepteur cœur amour, qui accueille les lumières et les forces du Seigneur, alors que dans le style 1, c'est plutôt le RTA, le récepteur tête analyse. Ces deux styles, 1 et 2, actuels et nouveaux, ont donc, on le voit bien, plus que de notables différences. Ils sont radicalement opposés. Ils ne peuvent se concilier. On ne peut les accommoder ou les raccommoder. Ils s'excluent l'un l'autre, comme le jour et la nuit. Passons, si vous le voulez, au chapitre 2. Intitulé « Une première dizaine de caractéristiques » d'un type actuel d'évêque en voie d'extinction. Il en est à sa dernière génération. Éminence, Monseigneur, cher Père, je n'ai pas besoin d'épiloguer longuement sur toutes les conséquences pratiques, à court comme à long terme, qui vont découler inévitablement, et je dis bien inévitablement, prochainement, et je dis bien prochainement, miraculeusement, car ce sera vraiment son œuvre bien à lui, le Seigneur, qui vont découler du changement radical, très bientôt, de style en Église. Cette étape, déjà en cours, et qui s'accélère de jour en jour, est révolutionnaire, au sens riche et bon du terme. La fin du style 1 actuel, et son remplacement par le style 2 nouveau, en quelques années à peine, va entraîner un bouleversement complet de notre manière de penser, d'agir et de vivre en Église. Une métamorphose, une transmutation, une transformation radicale. On peut donc comprendre aisément que certains, pas tous bien entendu, de nos types actuels de prêtres, de communautés religieuses et d'évêques, seront appelés à disparaître complètement. Ils ne répondront plus aux critères du Seigneur ni de son peuple en Église renouvelée. Il n'est pas facile, j'en conviens, de commencer à se l'avouer ou à se le dire entre nous. Mais nous n'en avons plus le choix. L'heure du grand Big Bang spirituel est sonnée et le renouveau spirituel profond de l'Église est bel et bien activement en marche, malgré bien des apparences contraires parfois. Il sera impitoyablement couronné de succès, si je peux dire, parce que c'est vraiment lui qui opère cette œuvre, elle est entre ses mains, et son œuvre va s'opérer directement, jour et nuit, dans les cœurs et les esprits des hommes et femmes d'Église, et non plus par le truchement ou le relais de nos structures diocésaines, de nos centrales pastorales, si dévouées et fonctionnelles qu'elles soient. En abordant aujourd'hui aussi franchement et courageusement que possible ce thème délicat du type d'évêque, puis éventuellement de prêtre et de communauté religieuse, en d'autres interpellations à venir, de ces types en voie d'extinction, de ces types qui vont bientôt disparaître par la grâce même de Dieu et selon le désir même de son peuple, je me sens et veux être, croyez-moi bien, non pas celui qui vient vous mettre en accusation, ou encore moins vous juger et vous condamner. C'est au Seigneur de le faire et non à moi. Mais je veux être plutôt celui qui veut rendre service. En effet, dans le jeûne, la prière et l'écoute assidue, dans le discernement spirituel, j'ai demandé, supplié l'Esprit du Seigneur, avec la foi d'un tout petit devant lui, s'il n'y aurait pas moyen d'obtenir à l'avance les futures questions d'examen important que nous tous, prêtres, évêques et communautés, nous aurons à subir très bientôt devant lui concernant l'exercice de nos missions et fonctions en Église, à l'heure de son renouvellement spirituel profond déjà en cours. Et c'est ce que, bien humblement et simplement, je viens vous livrer à la suite. Une photocopie des futures grandes questions d'examen. À chacun de nous et de vous d'en tirer profit ou non, en toute liberté, de s'évaluer lui-même ou pas, d'aller ou de ne pas aller au-devant de cette éventualité prochaine inévitable, je le dis avec la plus grande des convictions. De mon côté, je serais bien mauvais riche si je gardais ces questions d'examen uniquement pour moi, ou en cachette, pour l'usage exclusif de quelques amis privilégiés. Une mission prophétique ne peut être discriminatoire et ne doit pas non plus céder au moindre favoritisme en Église. Voilà pourquoi je rends cette liste publique et je ferai de même quand il s'agira des prêtres et des communautés religieuses. Voici donc, à la file indienne, pour utiliser une expression redevenue à la mode dans notre pays depuis quelques années, les principales caractéristiques du type actuel d'évêque, auquel le peuple de Dieu s'apprête à dire au revoir et merci, à l'aube de l'Église en train de se renouveler spirituellement de fond en comble. Je me limiterai aux caractéristiques les plus évidentes, à une vingtaine environ, parmi d'autres possibles. Je ne ferai que les énumérer, les expliquant ou les commentant bien rapidement, puisque ces caractéristiques sautent aux yeux, et on n'aura aucune difficulté à saisir que leurs jours sont déjà bien comptés. Première caractéristique, l'évêque pleinement satisfait. C'est-à-dire l'évêque qui, même après plusieurs années d'épiscopat, a toujours cru et croit encore présentement que le style actuel de pensée, de vie et de fonctionnement de l'Église est le seul possible, l'unique, le bon, qu'il n'y a donc pas lieu d'en chercher ou d'en souhaiter un autre, que c'est plutôt une question d'ajustement mineur de formule à mettre au point qu'une question de changement profond et radical dans sa façon de penser, de vivre et de fonctionner. Donc, un évêque qui ne saisit pas que le style 1 actuel et le style 2 nouveau, qui s'en vient au grand galop, sont radicalement distincts. Deuxième caractéristique, l'évêque résigné. L'évêque qui, après quelques années d'épiscopat, s'est rendu compte, lui, que le style actuel de pensée, de vie, de fonctionnement clochait à bien des égards, était non seulement inadéquat et déficient, mais était, face au salut des âmes, peu rentable spirituellement, voire même plein de lacunes, pour ne pas dire dommageable. Mais qui, malgré ce constat d'échec qu'il a pu faire de par l'action de l'esprit, il n'a pas pu, n'a pas cru, n'a pas osé ou voulu faire les efforts requis pour changer ce style 1 actuel, au moins ouvertement et résolument à l'intérieur de son propre diocèse. Et se contentant de retouches mineures, il a, à toute fin pratique, capitulé. Il s'est résigné au statu quo de la vie à la course, d'une église en déclin, d'efforts à bout de bras humains, où bien souvent l'on croit naïvement qu'on va animer les autres en se désarmant soi-même. Maître, lit-on dans l'Évangile, j'ai eu peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Les grâces de l'Esprit ont fait déluge pour donner à cet évêque les lumières et les forces requises. Il les a donc laissées inopérantes pour se laisser porter par le courant et le style des autres, alors que dans son diocèse, il aurait pu et dû réagir. Mauvais serviteur paresseux, dit le Seigneur, retirez-lui donc son talent. Matthieu 25, 25 et 28. Troisième caractéristique, l'évêque toujours à la course et surmené. Le type d'évêque, d'allure TGV, si on me permet l'expression, très grande vitesse, qui va à fond de train, comme si, et je dis bien comme si, c'était son zèle, son hyperactivité, sa vie de dévouement à fond de train qui allait faire toute la différence. Cet affolement, car c'en est un, guette surtout, mais pas exclusivement, les évêques nommés plus jeunes, les 40 à 60 ans, qui veulent s'accréditer rapidement, qui ne savent pas dire non, qui croient être l'instrument choisi du Seigneur en tout et pour tous. Et la rançon est habituellement lourde pour ce type d'évêque fringant. Il se brûle prématurément, brûle la chandelle par les deux bouts et même par le milieu. Il se vide spirituellement et se désillusionne en quelques années. Et le danger qui s'ensuit, c'est ou le burn-out chronique à petit feu, les ressorts physiques, psychologiques et spirituels sont écrasés, ou un genre de résignation, de capitulation morale qui traîne en longueur, en langueur, un peu surette, aigre-douce, qui a tendance à se méfier à l'avenir de tout et de tous et devient souvent un éteignoir, un rabat-joie devant l'enthousiasme, l'idéal et les projets des autres. Quatrième caractéristique, l'évêque, surtout brasseur d'affaires. C'est celui qui, bien souvent, a été davantage choisi pour ses qualités d'administrateur, de bon financier, compte tenu des problèmes de l'archidiocèse ou du diocèse en question. Et en fait, le clergé et les fidèles s'en rendent vite compte. On perçoit chez lui beaucoup plus le brasseur d'affaires, d'argent et de personnes que l'homme de Dieu et le pasteur d'âmes, même si cela n'est pas exclu. Permettez-vous un petit peu de taquinerie amicale, car sur ma route de vie, j'en ai croisé et en croise encore plusieurs de ce type-là. Je les trouve, soit dit avec mon meilleur sourire, beaucoup plus volubiles et convaincants quand ils commentent les collectes diocésaines que lorsqu'ils commentent ce qu'on appelait autrefois les collectes ou prières d'ouverture des messes quotidiennes. On les entend plus souvent dire « tax » ou « fax vobis » que « pax vobis ». Et par lapsus s'exclamer « donate fratres » plutôt que « orate fratres ». Trêve de taquinerie. L'Évangile nous précise que Jésus a choisi parmi ses apôtres un collecteur d'impôts. 1 sur 12. Mais le même évangile nous dit également, directement, que Matthieu a tout quitté pour le suivre. Donc, il a mis fin à sa carrière de brasseur d'affaires. Et indirectement, l'Évangile nous dit plus loin et ailleurs que celui qui, dans le groupe, tenait les cordons de la bourse pour le groupe, a fini par bien mal tourner. Et Judas a pourtant eu autant de grâce et de chance d'être saisi par le maître, mais il l'a été malheureusement davantage par l'ambition, l'argent et l'orgueil. Cinquième caractéristique, l'évêque pris en otage, consciemment ou non. J'ai vraiment encore à connaître un évêque qui n'a pas été ou n'est pas encore prisonnier, aller-retour de son entourage. La seule exception vivante et exemplaire d'un évêque qui réussit encore à ne pas l'être, quoi qu'en pensent et en disent plusieurs, c'est l'évêque de Rome, le pape Jean-Paul II. Et j'en parlerai et je l'expliquerai dans mon prochain enseignement ayant pour titre « Jean-Paul II et notre style nouveau en Église ». Lui, il a vraiment trouvé l'unique secret de la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. C'est vrai, il y a bien des évêques qui croient ne pas être prisonniers. Ils sont même sûrs de ne pas l'être. Mais la très, très grande majorité le sont. À preuve, en passant, ce besoin de s'évader de temps à autre. N'a besoin de s'évader, en fait, que celui que la situation de vie et de travail a emprisonné. Pas vrai? L'homme vraiment libre n'a pas besoin de s'évader. Il est maître chez lui, comme ailleurs, de son temps et de son être. Il sait dire oui et il sait dire non sur place. Personne ou rien ne l'envahit et ne le domine. S'il part en session, en vacances, à l'extérieur, ce n'est pas pour fuir, oublier, se distraire, mais par libre désir, goût et besoin. On pourrait ajouter à rebours une autre preuve de cette prise en otage aller-retour, c'est quand, dans certains diocèses, l'annonce de l'absence de l'archevêque ou de l'évêque finit par être souhaitée et applaudie par l'entourage. C'est vraiment détente et relâche dans le diocèse, non seulement à l'évêché, mais un peu partout. Sixième caractéristique, l'évêque surtout de raison et de volonté. L'évêque qui, à travers ses années en fonction, n'a pas encore pu réussir à ce que l'amour vrai, tant surnaturel que naturel, devienne le primat réel de sa vie, tant personnelle que communautaire, au service de ses frères et de ses sœurs. Et quand je parle d'amour vrai, je veux dire l'amour qui vient de Dieu, qui est toujours ressourcé en lui, qui anime sa pensée, sa vie, ses comportements envers tous, cet amour qui est débordant, évident, perçu et apprécié. Je ne parle pas seulement de la simple amabilité, de l'entre-gens, des bonnes manières, des relations sociales et cordiales, au fond desquelles on finit toujours par repérer plutôt le primat de la raison ou l'acier de la volonté, ou de la loi, ou du formalisme. Mais un évêque, homme de cœur, avant tout et surtout, dont la tête est vraiment tombée dans le cœur, son cœur à Jésus, et chez qui, de toute évidence, tous retrouvent une incarnation concrète, exemplaire, continue, qui édifie et entraîne le clergé et ses fidèles dans la pratique constante, héroïque même, du commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme et autant que je vous ai aimé moi-même. C'est à ce signe que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples, et, disons-le, sous-entendu, comme mon pasteur et successeur des apôtres. Septième caractéristique. L'évêque qui est mauvais jardinier du Père. L'évêque, qui, parce qu'il est submergé d'activité, et cela de manière chronique, finit toujours par aller au plus pressant, et croit finalement que le plus pressant, c'est l'ivraie et l'urgent. L'important vient en dernier lieu. Il entre alors dans un style et un rythme d'ambulancier, de sapeur-pompier, d'arracheur de mauvaises herbes, d'ivraie, de médiateur de conflits, de rapiessage de zizanie, etc., du même genre. Et, on l'imagine bien, judoka le fourbe se charge de son plein emploi, c'est trop évident. Pour lui, tout cela a finalement pris le pas sur l'importance et la priorité que le Seigneur accorde au bon grain. Et résultat et conséquence inévitable, il a de moins en moins de temps disponible et réservé à l'écoute, l'accompagnement, l'encouragement des âmes vraiment bien engagées en Église, consacrées au Seigneur. Il n'a plus de temps pour apprécier, complimenter, partager et soutenir, pas seulement en passant et à la course, mais de façon constante, significative, entraînante, son clergé, ses communautés, ses fidèles. Vous le savez comme moi, il y a de ces évêchés où si vous demandez à voir l'évêque pour un discernement spirituel important, on vous fera attendre bien longtemps. Alors que si c'est pour une dénonciation, une délation, un petit scandale, vous aurez votre entrevue dans les 24 ou 48 heures. Et pourtant, Jésus a dit, dans Matthieu 18, 15, que ces personnes qui veulent brusquer les événements, il dit, va d'abord trouver ton frère seul à seul. Plus tard, s'il ne t'écoute pas, retourne-y avec une ou deux personnes. Et ce n'est qu'après coup, en troisième et dernier lieu, qu'il faut le dire à l'Église, à la communauté et à l'autorité. Mais, au nom de l'urgent, on court-circuite souvent les requêtes ordonnées et pourtant claires du Seigneur. Les grâces sont alors bloquées et cet apparent dépannage échoue souvent à tous les points de vue, tant humains que spirituels et chrétiens. Huitième caractéristique, l'évêque atteint de la manie des réunions. Au début de l'Église, et je le dis souvent en boutade, on a voulu la détruire en livrant les chrétiens aux lions. Maintenant, méchamment et inconsciemment, on les livre aux réunions. Les chrétiens s'y font littéralement emprisonner, tôt ou tard dévorer ou avaler tout rond. Le type d'évêque qui a laissé sa vie et celle de son entourage être ainsi absorbé, rythmé, enivré par le cirque infernal de la réunionnite, a déjà signé son décret de disparition à brève échéance. Car, et l'expérience générale le confirme d'ailleurs, dans 80 à 90% des cas au moins, la rançon versée est lourde. Nombre de ces réunions sont stériles, car c'est d'ailleurs pour cela qu'on les multiplie. C'est facilement une fuite et une drogue, et souvent un prétexte facile pour négliger, remettre ou omettre les exigences normales et indispensables d'une vie spirituelle active et bien ressourcée. On est trop accaparé, essoufflé, à la course, pour y voir à temps et à fond. Qu'on le sache pour de bon, l'air sacré des réunions, j'entends de mes confrères chuchoter l'air des sacrées réunions, tire à sa fin. C'est fini, N-I-N-I, le temps à perdre où l'on va tenter encore, en passant des heures et des jours ensemble, de fabriquer notre vin maison en Église. Du vin de notre cru, à même nos raisins humains, souvent secs et parfois artificiels. Le peuple de Dieu ne veut plus de notre piquette, plus souvent qu'autrement, médiocre et acide. Certes, dans l'Église au style de nouveau, on se réunira encore, mais ce sera pour accueillir, déguster, célébrer son vin nouveau à lui, le Seigneur, du vin vraiment de son cru bien à lui, avec les raisins du vignoble de notre bon Père du ciel, mûri à point sous la lumière de son Fils qui est lumière, vie et chemin, fermenté progressivement au milieu de nous et en nous par son esprit d'amour, de joie et de paix. La manie dépressive des réunions achève. Neuvième caractéristique. L'évêque plutôt sert frein spirituel, c'est-à-dire le type d'évêque qui, de plein gré ou malgré lui, est devenu ou est demeuré au cours des ans incapable de vraiment entendre, comprendre, apprendre ou apprécier tout ce qui est du domaine mystique, charismatique, prophétique ou tout nouveau quelque peu inédit d'allure spirituelle. Chez les uns, cette gêne, cette peur, cette hésitation, cette méfiance même est plus ou moins consciente, rarement volontaire, peu ou pas contrôlée. Mais il n'en demeure pas moins que les résultats et les conséquences pour cette multitude d'âmes concernées sont les mêmes. L'observation et les confidences reçues de ces évêques révèlent habituellement trois causes courantes, parfois simultanées. Soit une ignorance au point de départ, manque de connaissances suffisantes, sérieuses en ces domaines, souvent également un manque d'expérience spirituelle personnelle en ces domaines, ça demeure donc de l'inconnu, du mystère pour plusieurs, enfin, une fausse prudence humaine qui est très mauvaise conseillère, et qui, tout en se donnant de louables motifs, de bonnes intentions, trahit toujours au fond la peur, camoufle l'insuffisance, conduit à des gaucheries parfois invraisemblables, comme toute cette série de déclarations de mise en garde, de rappels de vieux principes de spiritualité mal compris et mal appliqués, rendus en certains milieux à l'état d'épidémie. Des gestes de rebuffade spirituelle, de condamnation autoritaire, reposant presque toujours sur de simples discernements purement humains et naturels et des impressions personnelles. C'est malheureux. Et là où certains évêques sont par ailleurs passés tout droit, passés à l'excès, c'est lorsque, ne se contentant plus de vivre leur insuffisance en ces domaines, charismatique, mystique, prophétique et spirituel avancé, ils sont tombés parfois sans même s'en rendre compte, dans ce que j'appelle depuis quelques années du véritable avortement et euthanasie spirituelle. Dixième et dernière caractéristique à l'intérieur de ce chapitre, l'évêque inapte au véritable discernement spirituel et ou charismatique. Qu'on le veuille ou non, il faut beaucoup de courage chrétien et d'écoute spirituelle du Seigneur pour, d'une part, discerner correctement et spirituellement, et d'autre part, interpeller au nom du Seigneur. Les deux exigent qu'on ait donné ou qu'on donne à l'Esprit du Seigneur non seulement une libre entrée et un libre cours en soi jour et nuit, mais que dans sa propre vie, en tant que récepteur, on possède vraiment sa longueur d'onde à lui, sans parasite, sans brouillage d'onde, et qu'on lui accorde de bons et longs temps d'écoute, dans le calme et la prière assidue. En principe, on ne peut ou on ne pourrait imaginer un évêque qui n'est pas ou ne soit pas surdoué ou surdoté, équipé à fond des deux dons de discernement spirituel et charismatique, d'interpellation fraternelle sous la mouvance de l'Esprit-Saint. En effet, ce sont, entre autres, des musts, des sine qua non, des talents indispensables au bon exercice du rôle important de successeur des apôtres. Or, hélas, il faut bien l'avouer à notre courte honte, si je me base sur ce que j'ai pu observer, pas seulement chez nous, mais aussi à l'étranger, en pratique, bien peu, beaucoup trop peu, possèdent vraiment ces deux charismes essentiels aux successeurs des apôtres. Non pas parce que le Saint-Esprit émetteur s'y refuse, mais bien plutôt parce que l'évêque post-récepteur n'est pas ouvert suffisamment et n'est pas assidûment sur la ligne, à l'écoute du Seigneur. Parmi des centaines d'exemples possibles, j'en retiens deux qui illustrent fort bien cette affirmation. Manque de discernement, par exemple. À mon avis, tout évêque qui n'a pas pu discerner jusqu'ici et depuis longtemps, ou ne discerne pas encore clairement que la toute fin des derniers temps est arrivée, que cette période relativement courte d'ici l'an 2000 est présentement en cours, alors que les signes intérieurs et extérieurs surabondent déjà dans une multitude d'âmes ouvertes et offertes au Seigneur dans tous les diocèses. Exemple de manque de courage d'interpeller. Tout évêque qui a vu venir, par exemple, et s'accomplir le déclin incroyable à tout point de vue des communautés religieuses d'hommes et de femmes, et n'a pas eu ou n'a plus le cran spirituel de revenir à la charge, à temps et à contre-temps, de les exhorter et interpeller, de venir au secours de leurs membres qui, à l'intérieur de ces mêmes communautés, souffrent, sont ignorés, sont ridiculisés parce qu'ils croient trop, prient trop, sont trop aux affaires de leur Père du ciel. Que ce soit par gêne, par peur, par souci de ne pas déplaire ou de respecter le droit canonique, peu importe. C'est décevant. C'est un manque flagrant de leadership épiscopal spirituel. On pourrait mettre au même dossier tout évêque qui, face aux grands scandales qui vont éclater bientôt et éclabousser l'Église, n'ont pas su intervenir à temps et ont joué au Ponce Pilate. Ce type d'évêque, plus ou moins branché sur le bureau chef, peu ou pas à l'écoute de l'esprit, sera normalement, forcément en chômage en l'Église du style 2. Passons, pour nous reposer un instant, quoique brièvement, au chapitre suivant. Mais je me rends compte que le temps file et alors je ne pourrai pas m'y arrêter comme je l'aurais voulu. Nous posons la question du prophétisme en l'Église. Je vous réfère donc aux deux cassettes qui existent et qui sont intitulées « Un certain apartheid sévit face au prophétisme en l'Église » 08 des 2, 10 et 11. Et je ne peux m'empêcher de revenir sur ce que j'ai dit au début de cet enseignement, le fait que dans le code de droit canonique, aucune allusion n'est faite au prophétisme et aux prophètes dans la vie de l'Église. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce pauvre saint Paul a bien dû sursauter chaque fois dans sa tombe. Lui qui n'a cessé d'énumérer le prophétisme comme un ministère important et complémentaire dans la vie de l'Église. Un oubli incroyable comme celui-là est très révélateur de ce qui se pense et se vit en certains milieux. Et passons immédiatement au chapitre 4 pour parcourir ensemble une deuxième dizaine de caractéristiques d'un type actuel d'évêque appelés à disparaître de par la grâce de Dieu. Onzième caractéristique, c'est l'évêque du genre conservateur de musée. Dans ma lettre de démission en tant que secrétaire général de l'Épiscopat du Canada, lettre de 7 pages en date du 25 août 1974, sous forme d'une communication interne numéro 1155, un certain paragraphe de la page 5 est loin d'être passé inaperçu. Plusieurs m'en parlent encore, et je cite. « Ah, si seulement un jour, l'Église pouvait évoquer à ceux qui la voient passer dans ce monde le phare blanc et puissant de la locomotive qui est en tête et qui projette sa lumière loin en avant, plutôt que le simple fanal rouge du fourgon de queue qui termine le convoi et semble se résigner à suivre. Quel exemple et quel bienfait ce serait. » Fin de la citation. Monseigneur, ce vœu sincère, cette exclamation pleine d'espérance était, même si je l'ignorais alors, toute prophétique. Nous y sommes. D'ici l'an 2000, c'est sûr et certain, écoutez la proclamation du Big Bang spirituel en cours, l'Église va redevenir ce phare dans le monde, apportant aux enfants de Dieu la lumière et l'inspiration dont ils ont besoin et qu'ils attendent plus que jamais et de tout leur cœur. Bien entendu, beaucoup d'évêques seront de ce fait déclassés du jour au lendemain. En effet, pour des raisons qu'il ne nous appartient pas d'évaluer à leur mérite. Dieu seul y verra. Ils ont été, leur vie épiscopale durant, davantage des gardiens de forts que des gardiens de phares. Ils se sont plutôt comportés presque exclusivement comme des conservateurs de musées ou des responsables d'une forteresse, d'un fort à défendre, à surveiller, à protéger, à contrôler, et s'y sont peu à peu enfermés et emprisonnés. L'Église est devenue alors pour eux, peu à peu, comme je le dis souvent, plutôt un lieu de mise en conserve qu'un lieu de mise en culture continue du jardin de Dieu. Par peur, gêne, inaptitude, principe même, assaisonné souvent de bonnes et pieuses intentions, ce fut plutôt l'enfouissement des talents, la mise au coffre-fort des plus beaux acquis, l'engrangement et le rangement qui ont surtout requis leur temps et leurs efforts plutôt que l'ensemencement. Bref, une pastorale de maintenance que de relance. Évêque doux, dévoué certes, bien intentionné sans doute, mais par qui? Celui qui a dit tout haut, « Vous êtes la lumière du monde, votre lumière doit briller aux yeux des hommes, je suis la lumière du monde qui me suit, aura la lumière de la vie, tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous deviendrez fils de lumière. » Celui-là n'a pas été retransmis, diffusé. Ce type d'évêque, donc, accaparé surtout par des soucis de gardien de fort, n'a habituellement pas assez de temps pour être ce retransmetteur véritable de lumière vraie. Ce style d'agent de sécurité plutôt que de vérité n'aura plus, lui non plus, sa place en Église du style de nouveau. Et on me fait signe que le temps est écoulé.